Radio Okapi.
Le journal Belinda Bossouma.
Okapi.
Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. 60% des jugements rendus par les tribunaux de Kinshasa ne sont pas exécutés en cause, notamment le trafic d'influence, certaines interférences politiques, policières et militaires. Jeff Ngoy sera des nôtres. Tensions persistantes dans certains coins du Kasaï oriental, à la base un conflit de pouvoir. En une semaine, on compte environ 110 maisons incendiées et plusieurs biens pillés. Le ministre provincial de l'Intérieur appelle au calme. Et puis cette bonne nouvelle pour les finalistes du secondaire du Katanga. Le gouvernement provincial décide de payer leurs frais de participation à l'examen d'État. Le coût global est chiffré à près de 850 millions de francs congolais, soit près d'un million de dollars américains. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous avoir choisis. Ouvrons ce journal par ce constat en justice. 60% des jugements rendus par les tribunaux de Kinshasa ne sont pas exécutés. À la base, l'on déplore notamment le trafic d'influence, certaines interférences politiques, policières et militaires. À cet effet, le greffe chargé d'exécuter les jugements des justiciables et leurs avocats, ainsi que le procureur général de la République, convergent sur un seul point. Selon eux, l'inexécution des jugements est dû à la mentalité du Congolais. Personne n'accepte le verdict du juge, sauf celui qui a gagné, indique le procureur général de la République. C'est une enquête signée Jeff Ngoy.
Un jugement gagné par un pharmacien dans le procès sur la zaïrianisation reste toujours inexécuté depuis les années 80. Selon l'avocat du pharmacien, l'État avait été condamné à payer à titre de dommages et intérêts 83 millions de dollars. Dans le procès Jean Bamanissa contre Utex Africa, les enfants Bamanissa ont gagné un jugement, mais la famille n'a toujours pas été réhabilitée pour occuper le site querellé dans la commune d'Ngaliema le long du fleuve. L'ancien député national s'en plaint.
Lorsqu'un greffier est incapable d'exécuter un jugement comme le nôtre, qu'il fait un rapport, mais que le ministre sortant ne veut pas.
Le greffier d'exécution du tribunal de grande instance de la Gombe, Teddy Lutonadio, avoue que le greffe subit des pressions de ses supérieurs hiérarchiques. Ses prédécesseurs ont même été suspendus parce qu'ils ont outrepassé de telles influences pour exécuter certains jugements.
Je parle du ministère. On vous demande de ne pas exécuter. Peut-être avec le ministre qui vient d'arriver, il va laisser la justice faire son travail comme il faut.
Pour le procureur général de la République, on accuse souvent à tort le parquet d'une exécution d'un jugement, alors que cela n'est pas de sa compétence. Si l'on pouvait laisser la justice travailler librement, on ne serait pas là en train de déplorer l'inexécution de certains jugements, déclare Flori Kabange Numbi.
C'est celui qui a gagné qui doit faire exécuter sa décision. Le parquet n'intervient que lorsque le greffier chargé d'exécuter cette décision a rencontré une résistance.
Les considérations subjectives liées à la concussion, à la corruption et à la position sociopolitique constituent des mots qui rongent la justice congolaise. Mais la force reste à la loi.
Direction Cabinda, au Kasaï oriental, le calme n'est toujours pas revenu dans certaines localités du groupement Milembwe Mukundila suite à un conflit de pouvoir. Selon des sources locales, le chef de groupement légitime, Milambwe Angongo, a créé une milice qui terrorise et pourchasse tous les sympathisants du chef du groupement Kabulu Machimba. Ce dernier s'était autoproclamé il y a plus d'une semaine. Ces personnes sont armées des fusils de fabrication locale et des armes blanches. Reportage de Marcel Kabadi de la radio Veritas de Cabinda.
En l'espace d'une semaine, près de 110 maisons au total appartenant aux sympathisants du chef de groupement qui s'est autoproclamé sont incendiées dans les localités d'Embayo, Kitune, Ndela, Kananga et Kapuku selon les sources locales. Coques, poules, chèvres, moutons, canards, le maïs et manioc sont systématiquement pillés par la milice du chef de groupement légitime Milambo Yangongo. Par crainte d'être tués, tous les sympathisants du chef de groupement autoproclamés se sont réfugiés, soit dans les savanes boisées, soit dans les villages voisins. Le commandant de la police nationale congolaise du district de Kabinda dit que les policiers basés à Bakoma, non loin des localités à problème, n'ont pas reçu l'ordre d'affronter la milice du chef de groupement connu sous risque de provoquer l'effusion de sang. Le commissaire de district de Kabinda, quant à lui, compte surtout sur l'appui de sa hiérarchie pour neutraliser les chefs coutumiers et sa milice. Les ministres provinciaux de l'Intérieur invitent le chef de groupement en question et sa milice à cesser immédiatement les hostilités. Kabinda, Marcel Kabadi-Kabiola, Radio-Télévision Veritas pour la radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, on signale 4 morts, dont 3 soldats fardessés et 11 blessés lors d'une attaque armée hier contre un véhicule de transport en commun près de la Rwindi. C'est à une centaine de kilomètres de Goma, territoire de Rutshuru. Les responsables administratifs de Kanyabayonga attribuent cette attaque aux combattants Hutu-Rwandais des FDLR. Des sources sur place affirment que ces éléments seraient venus des Kinyamuyaga, au sud de Kanyabayonga, dans le parc des Virunga. Et au sud Kivu voisin, signalons que l'état-major opérationnel du 103e régiment FARDC est désormais basé à 50 km de Minova, cité située à 150 km au nord de Bukavu. Selon le commandant du régiment, cette délocalisation est liée aux opérations en cours dans les territoires de Masisi et Kalehe, respectivement au sud et nord Kivu. Ezekiel Batumike de Radio Bubanda nous en dit plus.
Le déploiement des militaires des FARDC s'observe dans la cité de Minova depuis 3 jours. Ils viennent s'ajouter à d'autres qui gardaient la cité et dont certains sont partis au front depuis le 2 mai dernier. Selon le colonel Kazungu, commandant du 103e régiment, le mouvement de l'état-major d'opération de Nyabibwe à Minova est lié à la présence des attaques qui persistent dans les territoires de Masisi au nord Kivu et Kalehe au sud Kivu. Ainsi, c'est notamment à Ziralo, Lumbishi, Tushunguti au sud Kivu et Ufamandu, Ngungu au nord Kivu. Il ajoute aussi que son commandement pourrait regagner Nyabibwe après les affrontements. Jusqu'à présent, il n'y a ni caserne ni cas érigé pour ces éléments. Ils s'occupent plus des patrouilles tant diurnes que nocturnes. Pour manger, ils dépendent des rations militaires en provenance de la 8e région militaire. Ezekiel Batumike, Radio Communautaire Bubandano pour Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le Comité international de la Croix-Rouge en RDC a procédé ce mardi à la sensibilisation des ONG des droits de l'homme. Au cours de cette session, le CICR a expliqué aux participants ses différents domaines d'intervention pour la promotion des droits humains. Paul Matendo.
Il s'agit donc, selon les animateurs de cette structure, de mobiliser les défenseurs de droits humains en République démocratique du Congo sur la promotion du droit humanitaire international. Dieudonné Dikou, assistant du délégué du CICR en RDC, a ajouté que cela va permettre aux ONG des droits de l'homme de prévenir les atteintes à ce droit fondamental.
Cette activité s'appelle, dans notre jargon, une séance de diffusion. C'est en fait, elle fait partie des activités de notre volet prévention, c'est-à-dire qui consiste à promouvoir le droit international humanitaire. Une meilleure connaissance du droit international humanitaire permet de prévenir les atteintes à ce droit fondamental.
De leur côté, les ONG présentes à cette session ont salué cette initiative. Selon Rostin Manketa de la Voix des Sans-Voix pour le droit de l'homme, cette session aura été d'un grand apport.
Vous savez, le CICR fait un grand travail. En tant que défenseur des droits humains, le CICR nous apporte beaucoup parce qu'il est de cas où nous sommes vraiment incapables d'agir. Mais le CICR arrive à faire quelque chose.
Parmi les participants, nous avons noté la présence des ONG, les Amis de la prison, l'Association africaine de défense des droits de l'homme et la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes.
Je vous le disais en titre, au Katanga, les finalistes du secondaire de la province ne paieront pas les frais de participation à la session ordinaire d'examen d'État. Ils sont pris en charge par le gouvernement provincial. Ce mardi, le ministre provincial des Finances a remis à son collègue de l'Éducation un chèque de 500 millions de francs congolais. Il s'agit d'un second à compte sur un total de 847 millions de francs, équivalent à près d'un million de dollars. Cet engagement du gouvernement provincial vise à donner la chance à tous les finalistes de participer à ces épreuves. Chaque élève devait verser 12 500 francs pour la session ordinaire. L'inspecteur principal provincial de l'EPSP exprime sa satisfaction, Nicolas Nyangé, au micro de Denise Mayo.
Ce n'est pas seulement pour les enfants de la ville de Lubumbashi, c'est pour tous les enfants de la province du Katanga. Et comme conséquence, c'est que ces enfants vont venir dans la quiétude, sans stress, et cela aura comme conséquence l'amélioration de leur performance. Car nous sommes rendus compte que voici bientôt 3 ans que le gouvernement prend en charge ses frais, eh bien, les enfants réussissent mieux. Ça aussi, comme lecture, c'est que le gouvernement provincial a allégé la charge des parents. Il n'y a pas que les frais de participation à l'examen d'État. Dans le cadre de la gratuité de l'enseignement fondamental, le gouvernement provincial a aussi pris en charge l'impression des bulletins et des fiches d'identification pour les enfants de l'école primaire.
L'amélioration significative des conditions de sécurité et de sûreté dans le domaine de l'aviation civile, tel est le mobile de la visite qu'a entamé le ministre des Transports et Voies de Communication à l'autorité de l'aviation civile. L'objectif final est d'arriver à mettre un terme au cas d'accident d'avion RDC et sortir le pays de la liste noire en matière de l'aviation civile. Jacques-Yves Molima.
Pour y arriver, le ministre des Transports et Voies des Communications pense qu'il faut dans un premier temps rendre rigoureux les textes. Non seulement la loi sur l'aviation civile en RDC, mais surtout les règlements sur la déontologie du métier. Il n'est pas concevable pour lui que des aéronefs non en règle continuent à voler avec l'autorisation des agents de l'autorité de l'aviation civile sans que ceux-ci soient poursuivis. Cependant, il ne manque pas de préalables pour arriver à mieux faire. Justin Kalumba.
Il faut améliorer la qualification des agents et du personnel. Surtout, il faut moraliser les agents. Parce que nous pouvons avoir des textes et des lois, nous pouvons avoir des règlements, mais si ces lois et règlements ne sont pas appliqués, mais il y aura toujours des écarts et nous aurons toujours à déplorer des morts, des accidents.
Mais à la question de savoir comment sortir la RDC de la liste noire, le directeur général adjoint de l'AAC parle plutôt d'un processus. Hippolyte Mouaka.
Il y a un processus pour sortir de cette liste noire. Que les gens de l'Union européenne qui nous ont mis sur la liste noire, eux-mêmes viennent et qu'ils fassent leur audit pour se faire une opinion. Alors en ce moment-là, c'est des compagnies par compagnie qui sortent de la liste noire.
Donc enfin, c'est avec un système crédible et efficace que la RDC pourra s'en sortir.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.